dissonance.
Aujourd'hui, histoire de voir les choses autrement, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Éléonore Richel est comédienne. Elle a choisi de vivre en Aveyron, d'y creuser son sillon et d'y semer des graines. Elle porte un regard lucide et critique sur la diffusion de la culture dans notre département. Remplie d'espoir et d'énergie, digne héritière des saltimbanques de Molière, Éléonore Richel nous fait partager avec passion son amour de la vie et de la scène.
Aujourd'hui, pendant une heure, Éléonore Richel nous dit combien être comédienne, c'est passionnant, mais aussi combien c'est un engagement quotidien.
À une époque où, justement, les temps sont durs, où on s'inquiète du terrorisme, où on met un état d'urgence et tout, il faudrait plutôt créer beaucoup de liens sociaux. Et la culture, c'est un des premiers vecteurs, avec l'école, tout ça. En fait, on tape sur tout ce qui est la base de la vie. Et tout ça pour mettre des caméras de surveillance, pour armer les policiers, moi je comprends plus.
Éléonore Richel nous parle de Cris de guerre, une pièce de théâtre dans laquelle elle joue et qui donne à découvrir une vision différente du conflit de 14-18 et des guerres en général.
Enfin, je trouve que cette pièce est d'une actualité brûlante sur tous les fronts et pas que sur le centenaire. C'est aussi une réflexion sur la guerre en soi, quoi. Mais quelle absurdité!
Aujourd'hui, il est question de transmission et de petites graines semées ici et là.
Eh bien, peut-être qu'ils ne feront jamais de théâtre, qu'ils ne seront pas du tout comédiens, enfin, c'est pas le but, mais je trouve que ça leur apporte tellement pour leur vie, parce que apprendre à parler fort, à s'exprimer, à s'imposer, à se tenir droit, c'est pour toute la vie.
Et en fin d'émission, nous retrouverons Elsa Dauphin pour sa chronique poétique mensuelle.
Dissonance.
Avec Éléonore Richel.
Sur Radio Centrafrique.
Alors bonjour, je m'appelle Éléonore Richel. Je suis une comédienne de 43 ans. J'habite à Rodez, dans l'Aveyron, depuis 19 ans. Alors j'ai commencé le théâtre en quittant l'Aveyron. Je suis arrivée à l'âge de 12 ans à Paris et c'est là que j'ai commencé mes premiers cours. Et depuis, j'ai jamais arrêté, enfin donc en tant qu'élève, à 12 ans. Après, je suis partie juste après mon bac, fille au père en Angleterre. Là, j'ai fait des stages en anglais, mais des stages. J'ai continué ma formation de comédienne. Ça s'est pas très bien passé dans la famille de fille au père. Je suis revenue en France et donc là, j'ai fait deux écoles en parallèle de... Il y avait le studio 34 et les arts et métiers du spectacle avec Laurent Azimuara. Donc ça, toute une année où vraiment j'ai fait que de la formation de comédienne. Puis j'ai repris mes études en études théâtrales, mais ça, tout l'aspect théorique, tout en continuant ma formation avec Jean-Paul Denison, qui est un comédien pédagogue merveilleux, qui a beaucoup travaillé avec Peter Brook, qui est pour moi un grand, grand modèle. Et mes 3 ans avec Jean-Paul Denison... Enfin, voilà, ça a été merveilleux. Et ensuite, à 24 ans... Ah non, je suis aussi partie aux États-Unis pour mon année de maîtrise. Donc là, j'ai continué ma formation de comédienne à l'université. C'était merveilleux de se retrouver sur un campus américain où ils donnent une place aux arts incroyable par rapport... Enfin, vraiment, et ça, je le vois encore à travers mes enfants, mais par rapport à la France... Il y a plein de défauts aux États-Unis, c'est pas du tout le rêve américain, mais pour la place réservée à tous les arts, pour moi de passer mon année de maîtrise, enfin 6 mois en maîtrise là-bas, il y a des studios de répétition, il y a un théâtre pour jouer, tout ça sur le campus. Bon, alors voilà, ils payent très très cher. Moi j'ai eu de la chance, j'ai payé mon inscription française et c'était un échange, donc pour moi c'était tout. Tout bénef, mais ça a été très intéressant et de se former aussi en anglais, de jouer enfin c'est pas ma langue maternelle et ça a été aussi je trouve très formateur et enfin oui c'était vraiment de la formation d'acteur tout ça. Après ce que je vois plutôt dans les spectacles, Bon, j'y vis pas, hein, mais il y a plus les comédies musicales. Bon, moi, ce que j'adorais aussi, hein, jeune, parce que je faisais de la danse, du chant, enfin voilà, c'était un peu le rêve, ce que je n'ai pas fait du tout, mais ça me faisait rêver. Après, quand je dis qu'ils reconnaissent plus les arts, c'est qu'on peut autant apprendre les maths, enfin, les cours de maths vont être aussi importants que les cours de théâtre ou les cours de chant et les cours d'histoire géo. Enfin, ça, dès le lycée, enfin, j'imagine dès le collège. Moi, je l'ai vu dès le lycée pour mes enfants. Ça me fait rêver.
Il n'y a pas de hiérarchie.
Il n'y a pas du tout d'hiérarchie. Alors après, il y en a peut-être du côté des parents qui vont dire non, on prend plus de cours de physique parce qu'on choisit un peu là-bas. Il y a un tronc commun. Après, on rajoute. Alors, moi, je l'ai poussé à faire plein de théâtre et de chant et de danse. Mais il y a peut-être des parents qui poussent plus vers les sciences. Mais n'empêche qu'à l'arrivée en nombre, une fois qu'on a choisi, elles ont eu autant d'heures de cours sur l'année, dans l'écriture théâtrale pour Garance, enfin l'écriture tout court, que les maths. Donc voilà, ça c'est en gros ma formation. Et après ma maîtrise, je suis venue m'installer en Aveyron. Et c'est là, petit à petit, que je suis rentrée dans le... Enfin non, j'ai fait une première pièce à Paris, professionnelle en fait. Donc à 20... Quel âge j'avais ? Ben à 20 ans. J'ai fait ma première pièce professionnelle et puis j'ai plus arrêté. Mais c'est vraiment en Aveyron ensuite que j'ai tout construit.
He's the man who never stops. He says flop and hop and hop and hop. Three flops in a row. He feels the flow, yo, yo. He's the man, he's the man who never stops. He never looks in the mirror. He never ever is afraid. He never wonders why.
Artiste peintre, donc j'ai baigné quand même. C'était une maison ouverte aux artistes. Il y avait toujours, enfin, de leurs amis, c'était plein d'artistes de toutes sortes. Et puis justement, j'ai quand même vécu 8 ans en Aveyron, petite fille de 4 à 12 ans. Et bon, là-dessus, on a passé 4 ans à Rodez. Et là, Agnès et Valentin étaient très amis avec, entre autres, parce qu'ils j'étais amie avec plein de gens, mais avec Michel Géniaud, qui à cette époque travaillait au Calaire. Je ne sais même pas dire ce que c'est, mais...
comité d'animation de loisirs en Rouergue.
Voilà, et qui était... Enfin, moi, j'en ai un souvenir d'un truc, mais super dynamique, où ils ont fait des trucs complètement fous. Enfin,
avec Bernard Coapé.
Voilà, Bernard Coapé. Et il y a eu aussi, surtout... Enfin, moi, c'est là... Et je pense que ça a été une de mes étincelles. Ils ont monté Vive le train. Et nous, ben nous, enfants, voilà, on a suivi tout ça parce qu'on était de nombreux enfants de tous ces comédiens, puisque Agnès et Valentin ont joué. Enfin, c'était un mélange de professionnels, d'amateurs. Enfin, en fait, je ne sais même pas ce que c'était. Mais nous, on a assisté à plein de répétitions, on a assisté au spectacle et j'en garde un souvenir d'un bonheur absolu. Et c'était pas sur scène, mais de vivre cette aventure. Et nous, entre les enfants, c'était merveilleux aussi. Enfin, c'est un peu un souvenir de rêve. Et puis, à peu près à la même époque, j'étais à l'école Cambon. Et on a fait un spectacle de fin d'année. Je crois que j'étais en CE2. Je ne sais même pas ce que c'était comme spectacle, mais on a inventé... Enfin, moi, j'ai joué dans les pubs. On faisait des petits intermèdes. On a inventé des pubs un peu débiles, mais je m'en souviens. Et j'ai adoré. J'ai adoré être sur scène. Enfin, donc, je pense que tout mélanger, et ça ne m'a plus quittée.
Est-ce que tu pensais que de choisir cette voie, ça allait être facile ou difficile? Est-ce que tu te voyais jouer souvent, faire des spectacles,
monter à Paris? Moi, j'allais être une star internationale, c'était évident. Et bon, voilà, moi, je ne me suis jamais posé de questions. Mais j'ai toujours foncé. C'est plutôt en vieillissant, après, oh, on met plein de freins partout. Mais et puis voilà, j'avais une mère... Bon, mon père était bien plus inquiet, il fallait quand même faire des études, il fallait... voilà, que j'ai un plan B, bien sûr. Agnès, c'était... Mais, enfin, elle m'a donné plein d'ailes, quoi.
Tu as joué dans plein de styles de spectacles, tu as chanté, tu as dansé. Je ne sais pas si tu as fait du mime, mais tu as fait de la mise en scène, tu as fait des spectacles pour adultes, des spectacles caustiques, des spectacles pour enfants. Pourquoi tu changes autant?
Ouais, mais alors ça, c'est aussi... ça, c'est d'être en Aveyron. Enfin, il n'y a pas que l'Aveyron, mais c'est... voilà, je ne suis pas une comédienne, voilà, la star internationale dont je te parlais de mon adolescence. Quand j'ai quitté Paris, voilà, ça a été un vrai choix de vie. Je savais que je ne serais pas la comédienne dans des grandes productions parisiennes. Enfin, les grands... Enfin, vraiment, ce n'est pas des notions de... Mais les gens connus sont là-bas, les réseaux se font là-bas, etc. Moi, j'ai fait l'inverse de tout le monde. Au lieu de monter à Paris, moi, j'ai fait toute ma formation à Paris. Au moment où on peut lancer une carrière, je suis venue ici. Et donc, à partir de ça, on peut pas attendre derrière son téléphone, puisque personne ne me connaît. Donc, c'est là qu'il faut être acteur de sa propre vie et de son métier. Et c'est pour ça qu'en 99, bon, parce que voilà, il y a eu les premières années, en plus j'ai eu mes filles, etc. J'ai joué d'abord avec la troupe amateur du Théâtre des Anneaux, avec Christian Touzé. On a fait... Enfin, moi, j'ai participé à 2 spectacles. Et puis la première qui m'a mis le pied à l'étrier, vraiment du statut d'intermittent, etc., c'est Odile Gess, qui faisait beaucoup de spectacles jeune public, et ça a été un peu mon premier ici professionnel, quoi, en dehors du Théâtre des Anneaux. Et à partir de ça, je me suis dit, bon, allez, maintenant, ça y est, je rentre dans ce statut d'intermittent, que faire? Et avec Agnès, donc ma mère... On s'est dit, vu qu'elle écrivait depuis toujours, elle avait déjà écrit pas mal pour le théâtre, beaucoup pour Michel Géniaud justement, et pour d'autres. On a dit, mais on est là toutes les deux, moi je l'avais retrouvée. On a dit, mais créons une compagnie et soyons productrices, quoi, de nos envies. Et c'est pour ça qu'on est parti dans plein... Enfin, je dis c'est pour ça, c'est un peu le contexte... des choses qui se passaient dans nos vies à ce moment-là, qui nous ont menés vers telle ou telle pièce. Bon, et puis Agnès les a presque toutes écrites. alors par exemple, jeune public, quand on a fait la Fée des Linges pour les maternelles, c'est parce que moi j'intervenais déjà dans les écoles, ou des fois on appelait la DIF Compagnie, qui est donc la compagnie qu'on a créée. Enfin, on avait des coups de fil, mais vous n'avez pas de spectacle pour les maternelles. On s'est dit, bon, c'est trop bête. Donc Agnès a eu une idée, elle a écrit quelque chose, on l'a répété, on l'a créé. Pour jouer au fil avec gros dégâts, c'est pareil. Moi, dans les écoles, c'était un moment où on me demandait que des choses. Enfin, moi, en tant que metteur en scène, ou des thèmes sur lesquels on me demandait de faire travailler les enfants, c'était que sur l'écologie. Donc on s'est dit, ben voilà, partons là-dedans. Clara Gazul, qui a été notre première création commune, ça c'était vraiment, ça venait profondément d'Agnès, qui avait envie de parler des femmes et d'une femme à différents âges de sa vie. Puis en même temps, quand même, parce que je parle de la DIV Compagnie, mais en fait à la base c'est une association qu'on a créée qui s'appelle la DIV à la DIV, vu que Claus Wing est au-dessus de la DIV. Et c'est la promotion des arts en milieu rural. Et moi, bien sûr, j'ai développé, bon, avec Agnès, mais tout le côté théâtral. Mais elle a vraiment fait marcher tout ce qui était enfin, on avait ce qu'on appelait, enfin, on l'a toujours, le studio d'artistes, où elle ouvrait autour d'un artiste local. Donc, elle a fait quelque chose autour de Claude Clément, qui écrit des livres pour enfants. Enfin, plein de gens qui vivaient en Aveyron. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il y a eu quand même des choses très différentes, mais toujours, ça a toujours été des créations, dans le sens où Agnès les écrivait. Enfin, sauf, il y a eu le balcon de Juliette, où là, on a pris vraiment des grands duos amoureux qui se passent au balcon. Donc il y a eu Roméo et Juliette, bien sûr, Péléas et Mélisande, enfin plein de... Mm-hmm. Donc là, c'était que des auteurs, voilà, Shakespeare, je sais plus qu'est-ce qu'on avait comme texte.
Why do I hate them so? They're just children playing their games. What have they done wrong to me? I don't know when did this all start. I used to like the parts. I love the crying of the seagulls, to see them making their graceful curls in the sky. Now I close my ears when they are screaming. People say hello, why don't you answer their friendly questions? Like, how are you at it? I think they know how I feel. I'm sure they see it in my eyes. Yes, they think that I am crazy. I think they know how I feel. I'm sure they see it in my eyes. Yes, they think that I am crazy. That's why I hate them so. That's why I hate them so.
Dissonance
avec Éléonore Echen
sur Radio Sainte-Afrique.
Donc tu as su faire de ce que certains appelleraient des inconvénients, c'est-à-dire la ruralité en Aveyron, pour un comédien, un atout pour toi, justement, aller explorer plusieurs pistes, plusieurs voies.
Oui, mais en fait, j'avoue que c'est pas réfléchi du tout.
Oui, mais en fait, quand on l'observe...
C'était de l'ordre de la survie, mais pas... Enfin, si, aussi pour manger, bien sûr, mais si je reste ici, enfin voilà, c'est un choix, si je reste en Aveyron, si je veux continuer à vivre de ce métier qui est ma passion, j'ai pas le choix. Et puis voilà, j'ai eu la chance, on était toutes les deux, puis après, c'était à géométrie variable.
Et tu continues donc à construire l'édifice dont ta maman a posé les socles, l'animation culturelle en milieu rural.
Ouais, avec, ouais.
Tu peux nous parler de Agnès Echen, donc qui est ta maman,
voilà.
Et de la Dive Compagnie,
alors,
puisque tu es sa digne héritière.
Hein, je suis son héritière. Bon, je suis en pleine digestion de cet héritage. Voilà, bon, alors Agnès Echen, c'est donc ma mère, qui était quelqu'un d'assez exceptionnel, d'une énergie, d'une ouverture d'esprit, d'un amour des arts assez incroyable. Et en fait, voilà ce que je disais tout à l'heure, qu'on a baigné dans un milieu particulier. C'est vrai que je dis que là, avec la Dive, elle a ouvert le studio à différents artistes. Mais déjà, quand j'étais enfant, elle organisait tous les premiers vendredis du mois. Enfin, quand on vivait à Paris, c'était portes ouvertes aussi autour d'un artiste, tout ça. Enfin, elle avait une énergie incroyable et elle voulait vraiment faire connaître tous ces artistes qui la touchaient. Mais ça allait des plasticiens aux auteurs, aux chanteurs, danseurs. Enfin, c'était un spectre très, 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 très large. Et elle organisait aussi des fêtes incroyables. Elle était très créatrice, même dans sa vie. Elle a fait des fêtes avec des thèmes fous. Enfin voilà, c'était. Et nous, on baignait là-dedans avec mon frère, ma sœur plus tard, et mes enfants aussi, puisque après on a gardé ça, les carnavals, et ça on le continue. Donc, et bon, et elle est décédée en juillet 2014. Donc là, ça fait un an et demi. Donc c'est vrai qu'alors la Dive, depuis, c'est pas facile.
Elle continue.
La Dive continue.
C'est toi qui la portes, vous la portez
Je la porte avec le président et la secrétaire qui sont vraiment des super piliers. Et ma sœur qui s'y est rajoutée. Porteuse de licence, parce que pour le théâtre, il faut une licence. C'est nominatif, c'était Agnès, donc Gabrielle a pris le relais. Mais alors au départ, juste après le décès d'Agnès, elle a beaucoup marché parce qu'on était en pleine création de Cri de guerre, donc notre dernier spectacle. Donc là, on n'avait pas le choix. On était en résidence début septembre, donc c'était tout frais après la mort d'Agnès. Mais voilà, il y avait une urgence. Il a fallu faire. Mais c'est vrai que depuis un an, là, parce qu'on n'a pas joué Cri de guerre depuis fin janvier 2000, du coup je me perds dans les dates, 2015, là, on l'a mise un peu en sommeil. Alors, on fait nos AG, on y réfléchit. Mais moi, j'ai pas eu l'énergie, parce que voilà, il faut quand même avoir une énergie folle pour la relancer. Alors j'ai eu des désirs parfois en me disant mais je vais refaire des studios d'artistes, enfin rouvrir. Et je pense que ça va venir. Mais voilà, il fallait ce temps parce que si on s'est heurté, on n'a pas pu. Enfin voilà, Cri de guerre s'est arrêté fin janvier 2015 et ça c'est un crève-cœur. Alors qu'on a vraiment tout fait pour essayer de vendre cette pièce et de n'avoir aucun retour, d'avoir tout fermé comme ça, moi ça m'a quand même bien atteinte. Donc ça, plus la mort d'Agnès, voilà, il a fallu faire cette pause. Mais là, on a fait notre trajet justement il n'y a pas longtemps et je sens que les énergies reviennent, enfin moi, mais aussi du bureau et puis d'autres proches de la Dive qui ont travaillé avec nous, qui n'étaient pas forcément là dans le dernier spectacle, mais qui ont des envies aussi. Donc ça va revenir, je suis assez confiante.
Thank you.
Clara Gazur, pour t'avoir vu à la MJC ici. T'étais toute seule, c'était formidable, c'était phénoménal, c'était une performance, on dirait maintenant, quoi.
Oui,
et
oui.
Et tu te sens à l'aise comment? Mieux toute seule sur scène à plusieurs? Ou alors, pareil, tu prends tout ce qui vient et tu baignes dans toutes les eaux, quelles qu'elles soient?
Clara Gazul, au départ, c'est vraiment, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est une idée d'Agnès, un désir de... Enfin, voilà, une parole forte qu'elle voulait faire entendre. On en a beaucoup parlé, parce qu'au départ, j'étais un peu contre l'idée de jouer seule. Je lui ai dit... Enfin, je me souviens vraiment, je disais, oh, moi, en tant que spectatrice, ça m'embête. Elle m'a dit, écoute, viens... On avait déjà l'habitude d'aller à Avignon ensemble, pas ensemble, etc. Mais cet été-là, elle me dit, viens, on va à Avignon ensemble, on va voir que des solos. Et bon, pas, je dis bien des solos, c'est pas des one-man show, on n'est pas allé voir des comiques, enfin des one-woman show. Et c'est vrai que, alors, on a vu de tout. Et j'ai été convaincue, j'ai dit, ok, banco, allez, on se lance. Et beaucoup de gens m'ont parlé, un peu comme tu me dis, mais t'étais une heure et demie, seule en scène, mais quelle performance. Et en fait, je l'ai fait, voilà, une fois de plus, un peu sans réfléchir. Enfin voilà, j'avais réfléchi au début en disant « Oh !» Et une fois que j'ai dit « Banco, on y va !» Ben, on s'est lancé à fond, toutes les deux, avec Dominique Jean aussi, qui nous accompagnait pour la danse. Enfin, pour un peu... C'est pas de la danse, je danse pas... Styliser la stylisation des gestes, de la gestuelle. Mais j'ai plus réfléchi. Bon, enfin, sauf que très vite, je suis tombée enceinte. Et que, j'avoue que la création, j'étais super fatiguée. Mais voilà, il y avait plus ça. C'était plus, bon, allez, il faut que je dorme assez. Ma grossesse, bon, c'était le troisième, me fatigue beaucoup. Donc j'étais plus dans une urgence un peu de, allez, il faut y arriver, mais en même temps, prends soin de toi. Donc j'ai pas réfléchi. Et j'ai foncé. Et après, ben, j'avais le trac avant d'entrer en scène, mais comme toujours, mais ni plus ni moins. Et après, pour avoir quand même fait par la suite des spectacles seuls, après, parce que les jeunes publics, là, ça a toujours été seul, parce que financièrement, sinon, ça passe pas. Et les autres, où on est en troupe, quand même, je préfère la troupe. Je trouve ça bien plus rigolo. Ouais, moi, j'aime bien jouer avec les autres. Bon, enfin... C'est pas facile tous les jours. Enfin, c'est normal, on est différentes personnalités, etc. Mais bah sur scène, je trouve ça bien plus rigolo de parler à d'autres gens. Et puis voilà, il y a quand même une stimulation qui est... Parce que d'aller faire une tournée, alors on n'est jamais seul, parce que, bon, avant j'avais Agnès, puis après, bon, lorsqu'elle est tombée malade, c'était Nicolas, qui est super, qui était un peu mon régisseur. Et on s'éclate, ça marche très bien tous les deux, mais... Voilà, dès qu'on est 4, 5, il y a une autre énergie.
Dissonance
avec Éléonore Echen
sur Radio Sainte-Afrique.
Ben, j'avoue que tous mes amis sont en galère, donc c'est pas qu'en Aveyron. Enfin, je dis ça, j'ai quelques amis justement qui étaient à l'école de comédiens avec moi qui, eux, ben, font un peu plus de films, donc ils se payent le théâtre. Le théâtre, c'est quand même difficile si on n'est pas avec, avec les grands noms, quoi. Alors après, est-ce que c'est particulier à l'Aveyron ou pas? Je sais pas. Mais en Aveyron, Il y a beaucoup de moments de découragement quand même. Voilà, je suis toujours là. Mais combien de fois je me suis dit, ça suffit, maintenant on part à Toulouse. Et c'est pas le rêve à Toulouse, hein, parce que j'en connais beaucoup qui galèrent tout autant. Mais il y a une autre effervescence. Mais c'est vrai que là, alors je veux pas créer de conflits ou de choses comme ça, mais ce qui devient un peu inacceptable d'entendre quand même, parce que c'est de plus en plus, bah oui, mais vous, vous êtes trois sur scène, vous coûtez 2000 euros, et la compagnie amateur, nanana, ils sont 15, vous vous rendez compte, et ils coûtent, je sais pas, 400 euros, 500 euros, j'en sais rien.
Ils n'en vivent pas.
Et voilà, et comment leur dire, bah d'accord, bon, ils sont 15 sur scène, mais c'est pas leur métier, ils font tous autre chose à côté. Et vraiment, je ne veux pas mettre ça sur de la valeur, parce que bah, moi-même, je travaille avec le Théâtre des Anneaux, moi, je trouve que Christian fait un travail remarquable. Donc, c'est pas qui est le meilleur, c'est pas ça du tout. Mais il y a des gens, c'est leur métier. Et nous, on n'est que trois sur scène, mais on a deux... Enfin, je parle pour Cri de Guerre, mais il y a deux techniciens, on est cinq personnes qui dépendent de ça pour vivre. Et alors voilà, c'est vrai qu'on voit passer plein de choses sur Facebook, mais c'est pour les musiciens, c'est la même chose, c'est peut-être même pire. Venez jouer, vous allez faire un peu d'animation dans mon bar, mais on vous offrira une bière. Et puis, enfin, tous ces gens-là, ben, ils sont bien payés, eux, dans son bar. Il est... Et nous, on a besoin de vivre.
Et tu n'as pas l'impression d'avoir mis en parenthèse ta passion et toute ton énergie créatrice pour être resté en Aveyron avec tes enfants et...
Non, non, ce qui est évident... Alors après, on rentre aussi dans la question... Enfin, femme, parce que je suis une femme, les hommes, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'ils se posent les mêmes questions. Mais j'ai fait un choix d'être quand même très présente avec mes enfants. Si on est en Aveyron... Enfin, si on est venu en Aveyron, c'était déjà parce que j'étais enceinte et on s'est rapproché justement de ma maman... Je ne pensais pas du tout y rester, on y est resté parce que c'est vrai qu'on a eu une vie de famille incroyable. Il y a une qualité de vie, ça... Et c'est pour ça, je sais que c'est pour ça qu'on est resté. Après, j'ai perdu une énergie folle et que j'ai de moins en moins et qu'il faudrait que je retrouve, mais... Parce que je ne suis pas que comédienne. Hein, quand on a une compagnie, même si c'était pas du tout moi à la tête de la compagnie, c'était vraiment Agnès qui faisait. Parce que je vois maintenant tout ce qu'il y a à faire. Je vois qu'elle en faisait beaucoup, beaucoup. Mais on est aussi vendeur parce qu'on doit aller vendre nos spectacles. On est aussi afficheur parce que... Enfin, c'est pas j'arrive, tout est fait. Alors, ça dépend. Mais bon, voilà, dans des milieux comme ça, enfin, petit... Il faut tout faire. Moi, je suis une vendeuse nulle. Je m'y épuise et en plus ça m'atteint profondément. Et je pense que c'est là que j'ai perdu un peu de mon énergie. Parce que quand l'année dernière, j'ai passé tout le mois de décembre et tout le mois de janvier à appeler, et j'étais bien épaulée hein, par le président de l'association, enfin, ils ont fait un boulot remarquable. Mais quand on appelle, on envoie des mails, on sollicite des rendez-vous et qu'on n'a même pas de réponse des tous les directeurs de théâtre parce que... Et même pas de réponse, mais même pas un accusé de réception. Alors, ils sont peut-être tellement sollicités, mais comment on fait? Comment on fait? Enfin là, c'est la problématique, mais je vois que c'est partout pareil, parce que l'année dernière, je suis allée à un... Justement, il y avait un peu... pas un colloque, mais une réunion de comment se faire diffuser. Enfin, je sais plus comment. C'était un peu la problématique. Et cette réunion était à Toulouse. Comment jouer lorsqu'on n'est pas à Toulouse? Parce que qu'est-ce qu'on nous dit toujours? C'est venez nous montrer, mais quand on ne nous prend pas dans un théâtre. Et j'ai vu que voilà, là c'était pas que l'Aveyron, c'était tout Midi-Pyrénées. Donc maintenant rajoutons Languedoc-Roussillon. On était dans les mêmes problématiques. Si on n'est pas dans les grandes villes, comment se faire connaître de la DRAC? Comment. Nous on n'a jamais réussi. Tu vois, jamais, jamais, parce qu'ils ne viennent pas jusqu'à Rodez, c'est trop loin. Ils viennent à Rodez que pour les résidences, où ce sont des Toulousains qui sont venus à Rodez en résidence. Et là, les Toulousains de la DRAC font la route. Enfin, tu vois, c'est absurde. Enfin, voilà, tout ça pour dire que c'est là-dedans qu'on... Enfin, Bien sûr, si on était une compagnie qui a plein de sous, ben on a les diffuseurs, on a ceux qui s'occupent de la com, tout ça. Mais là, non, on fait tout.
Pourtant, une troupe aveyronnaise est aussi une image de l'Aveyron.
Ils n'ont jamais compris.
Et alors, il y a un organisme qui s'appelle la mission départementale de la culture, qui dépend du conseil
départemental. Enfin, maintenant, ça s'appelle Aveyron Culture.
Voilà. Et est-ce qu'Aveyron Culture, vous avez des contacts, vous travaillez ensemble, la Dive Compagnie, toi, les comédiens, et eux, pour justement arriver à émerger, participer à des salons?
Ils essayent ponctuellement. Ils ont un bon fond. Peut-être ça va changer, là, avec tous les remaniements, etc. Changement de nom. Je sais pas. C'est Florence Vézy, qui a été très présente au départ. Après, pendant très longtemps, elle était sur un autre secteur, puis qui a été de retour. Le nom Florence Vézy, pour moi, il y a eu un trou béant. Peut-être d'autres gens ont pu travailler avec la mission. Parce que moi, je les ai toujours appelés, toujours tenus au courant. Alors, il faut départager le côté conseil départemental, qui, eux, nous ont toujours accompagnés financièrement. Et franchement, on ne crache pas dessus, parce que c'est tellement difficile. Et c'est les seuls qui ont toujours été d'une fidélité remarquable. Mais pour aider... Ils essayent d'organiser une grande journée où chacun va montrer un extrait de notre spectacle, où il y a les diffuseurs qui viennent. Moi, ça n'a jamais rien donné. Mais rien. Pas une date. Toutes les autres dates, je les ai trouvées moi-même. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce que moi, je me souviens avoir fait un stage au Vieux Palais, là, à Espalion, il y a déjà un bon moment, avec Jean-Claude Pinchelat, qui est aussi un metteur en scène incroyable. Il y avait une comédienne qui venait du Lot et qui me parlait de l'Ada du Lot. C'est la même chose, sauf que c'est un autre nom. C'était incroyable. Ils avaient un accompagnement, d'un dynamisme. On essayait vraiment de les faire rayonner. Et là, je ne sais pas, ils n'y arrivent pas. Est-ce qu'il y a un manque de moyens? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé comment? Moi, je ne sais pas s'ils sont crédibles aussi. Enfin, c'est pas du tout attaquer les personnes. Mais c'est un métier quand même. Et je trouve qu'en Aveyron, mais peut-être ça se passe aussi dans d'autres lieux pareils, mais on bidouille beaucoup, on va mettre à la médiathèque quelqu'un dont c'est pas le métier. Et je pense que, alors, c'est pas les mêmes, hein, une mairie, un département, mais j'ai l'impression que tout le monde fonctionne un peu comme ça. On met, parce que ça fait des économies, tiens, toi t'étais secrétaire, peut-être tu pourrais t'occuper de ça. Et même si ces gens sont super sympathiques et plein de bonne volonté, et ils ne savent pas faire ce métier.
Et comment tu vois l'avenir? Alors, vous êtes tous intermittents. Alors, déjà,
c'est alors pas... moi, je ne suis plus.
Tu n'es plus intermittent.
Depuis 2 mois. Voilà, parce que je n'ai pas joué. Et l'avenir est très noir. Non, très, très noir. Enfin, alors, je ne vais même pas parler de tout l'Aveyron, parce que je ne suis pas une experte, mais nous, ce qui se passe, à Rodez, la culture est en train de mourir. Hein. On a supprimé le festival Côté Court cet été. Ça faisait quand même jouer des gens locaux. Voilà, nous, on y avait joué... Alors, c'est bien vieux, c'était une autre municipalité, mais on y avait joué le Balcon de Juliette. Ça ne s'appelait pas Côté Court, mais c'était le même principe. C'était pour les lectures, c'était toujours des gens locaux. Après, ils venaient pas de bien loin, les acteurs, tout ça. Enfin, voilà, c'était... Bon, ça s'est balayé. La baleine, on annonce qu'il n'y aura plus de programmation.
C'est une salle qui est à Honnel-Château.
Alors, c'est une salle qui est à Honnel-Château, qui a ouvert il y a 3 ans, 3 ans et demi.
Côté de Rodez.
Voilà, en bas de Rodez. Une salle magnifique, toute neuve, qui permettait des spectacles qui ne pouvaient pas venir, par exemple, à l'émission de Rodez, parce que le plateau, là-bas, enfin, la baleine est bien plus grande. Donc, ça a permis de faire venir les ballets jazz de Montréal. Moi, c'est ce qui m'a complètement ébloui l'année dernière. Ils n'auraient pas pu danser ici. C'est une troupe de danseurs absolument prodigieux, avec différents chorégraphes. Ils sont venus à Honnel-Château. Et moi, ça me désole. Et donc, une fois de plus, en ce moment, du coup, les intermittents se réunissent à nouveau, mais élargis avec le collectif citoyen du Grand Rodez et tous les citoyens qui sont touchés par ça. Parce que, à une époque où, justement, les temps sont durs, où on s'inquiète du terrorisme, où on met un état d'urgence et tout, il faudrait plutôt créer beaucoup de liens sociaux. Et la culture, c'est un des premiers vecteurs, avec l'école, tout ça. En fait, on tape sur tout ce qui est la base de la vie. Et tout ça pour mettre des caméras de surveillance, pour armer les policiers. Moi, je comprends plus. je comprends pas. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'essaye de rester optimiste parce que j'aime la vie, parce que j'aimerais qu'il y ait un beau monde pour mes enfants. Mais des fois, il faut aller chercher loin en soi pour dire « Allez, ça va aller
!» Et si tu étais à Paris, tu crois que ça serait différent et plus facile ?
Non, je pense pas. Je pense pas parce que, enfin, après, on ne sait pas. Il y a des facteurs de chance, de rencontre. J'aurais pu rencontrer The metteur en scène. J'en sais rien, mais non. J'ai pas trop ce, j'ai pas ce regret ou ce questionnement-là, parce que j'ai vu aussi tous mes amis. Alors, il y en a quelques-uns qui travaillent, mais combien ont laissé tomber. Mais tu vois, par rapport à Paris et l'Aveyron, quand même, quand j'étais à Paris, ben voilà, j'ai passé plein de castings, j'avais joué une pièce. Mais il y avait un truc, j'ai jamais pu faire de voix. Alors, je dis pas des voix dans des films, mais il y a beaucoup de voix, hein, les radios, les commentaires de documentaires, tout ça. Jamais, c'était pas possible, c'était un réseau trop fermé. Et j'arrive ici, ben, il n'y avait pas foule quand même de comédiens, de comédiennes, et là j'en ai fait plein. Alors depuis, les studios n'ont plus de boulot non plus, donc j'en fais plus. Mais enfin, c'était pour dire, tu vois, qu'il y avait du plus et du moins, enfin, c'est toujours pareil. Et là, de ce côté-là, j'ai pu faire plein de voix, plein de documentaires, plein de... C'était marrant.
Dissonance
avec Éléonore Echen
sur Radio Sainte-Afrique.
J'aimerais qu'on revienne à Cri de guerre. Moi, cette pièce de théâtre, je l'ai vue. Donc, c'est un texte écrit par Agnès Echen. Un texte formidable que j'ai découvert. Il y a tout un regard sur aussi les mutins, les fusillés. Un texte donc très moderne et très d'actualité, puisqu'on commence à parler maintenant de cet aspect-là. Et en plus, la pièce et la mise en scène, je ne sais pas qui c'est qui a fait la mise en scène.
La mise en scène, c'est Michel Géniaud, à nouveau.
Michel Géniaud, oui.
Ben, cette pièce, je ne sais pas pourquoi elle ne tourne pas, et je t'avoue que je n'ai pas eu la réponse. Alors, justement, tu parles de l'Office national des anciens combattants. Moi, j'ai croisé il n'y a pas très longtemps Renaud Chouvert, qui est donc le président de l'Office national des anciens combattants en Aveyron. Et on en a reparlé parce qu'il était tellement enthousiaste, tellement... Et puis bon, voilà, on a eu le label du centenaire. Et puis lui, vraiment, il nous a vraiment accompagnés. Et on s'est recroisés au collège de ses enfants. J'intervenais pour Novado de la MJC. Et on en parle un petit peu. Alors, la seule petite note d'espoir qu'il m'a donnée, il m'a dit, oh, vous savez, en 2015, il ne s'est pas passé grand-chose dans la guerre. Mais en 16, il y a quelques événements. Oui. 17, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, puis 18, bon, ça va être l'explosion. Donc comme on a loupé un peu le début du centenaire avec 14, vu qu'on a été prêt juste en fin 14, et on a quand même joué 7 ou 8 fois en 14, enfin plus une fois en 15, mais sinon, j'ai pas compris, j'ai toujours l'impression qu'on tombe mal, que c'est la crise, que tout le monde déprime, qu'on ferme les théâtres, qu'on ferme les festivals. Les mairies, ce que tu disais tout à l'heure, n'ont plus de sous, parce qu'il n'y a pas que les théâtres, justement. Nous, on a démarché aussi les mairies, les établissements scolaires, parce que l'année dernière, quand on a joué à Marcillac, il y avait les collèges. Moi, j'avais fait tout un travail de médiation, j'étais allée présenter la pièce. C'était super, en plus, j'ai adoré faire ça. Ensuite, ils sont venus voir la pièce, en même temps qu'il y avait la maison, je ne sais pas s'il y en a qu'une ou deux, mais la maison de retraite de Marcillac. Enfin, si tu veux, il y a plein de solutions pour que... justement un grand éventail d'âge voit ce spectacle et en plus soit touché et intéressé. Mais comment atteindre les gens, comment trouver la bonne oreille, tu vois, le bon maire ou le bon, je ne sais pas. Alors bien sûr, nous on n'a pas de personne, une personne qui est chargée de s'occuper de la communication et qui ferait que ça. Bien sûr, c'est un problème, mais malgré tout, vu le boulot qu'on a fait, je ne comprends pas. Non, parce que c'est vrai que c'est une pièce, enfin voilà, toi tu en parles, tu l'as aimé, mais moi, c'est vrai que c'est Agnès qui me l'a proposé, voyant le centenaire arriver, parce que c'est une commande qu'elle avait eue en 88 par Michel Géniaud, justement, qui avait fait une première création à cette époque-là, et donc... ça devait être en 2013, elle me dit « Mais ça te dirait pas, Cri de guerre ?» Moi, je l'avais même pas vu à l'époque. Quand elle l'a créé en 88, j'étais à Paris, ils étaient ici, enfin, je l'avais pas vu. Donc je lui ai dit « écoute, passe-moi le texte. » Et alors, j'ai adoré. Et ça ne m'a pas fait ça sur toutes ces pièces. J'aimais bien tout ce que j'ai joué. Mais celle-ci, je me suis dit « Mais je veux faire entendre cette voix. » Parce que c'est ce que tu disais, il y a aussi des points historiques, mais c'est aussi... Et en plus, je trouve que c'est actuel. Quand on parle du centenaire, mais c'est aussi très actuel par rapport à notre société, tout ce qui se passe dans le monde.
Par rapport aux femmes aussi, la position des femmes pendant la guerre.
Oui, qu'on n'entend pas toujours, parce que c'est vrai que, voilà, moi, mon rôle, je suis la femme restée en arrière et qui raconte. Enfin, on a vraiment tout. On a ce qui se passe sur le front, ce qui se passe à l'arrière, avec plein d'espoir au départ. Oui, oui, tu vas vite revenir, mon chéri. T'inquiète pas, je gère. Puis petit à petit, mais ça va plus, quoi. On n'y arrive pas. Mais je trouve qu'il y a aussi une réflexion sur la guerre en général. Parce que tout ce que dit le poilu est l'absurdité. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même très actuel avec toutes les guerres qu'il y a en ce moment aussi dans le monde. Enfin, je trouve que cette pièce est d'une actualité brûlante sur tous les fronts et pas que sur le centenaire. C'est aussi une réflexion sur la guerre en soi, quoi. Mais quelle absurdité! Et tellement peu de gens l'ont entendu pour l'instant.
Dans ces 3 années encore.
Voilà, il y a encore. Mais tu vois, pour moi, c'est presque déjà grillé pour novembre 2016. Enfin, je dis novembre, parce que c'est vrai qu'on a un peu tout. C'est novembre, c'est pas vrai, mais je vois pas comment on va. Enfin, nous, on est prêts, partant, super motivés, mais comment. Parce que tu vois, même Saint-Afrique, on a essayé. Moi, on m'avait donné des contacts. Enfin, je dis même Saint-Afrique parce que je te vois.
Non, mais Saint-Afrique...
Mais j'avais essayé avec la maison de... Je ne sais plus comment
la
ça
mémoire.
S'appelle. Voilà.
Et on ne désespère pas.
Et voilà, moi, j'ai essayé auprès de ces gens-là. J'ai essayé auprès de la mairie. Et j'y arrive pas.
Allez, attention. J'ai oublié tout à l'heure dans l'échauffement. Abracadabra, je vous transforme tous. Vos animaux, vous essayez de les faire marcher comme vous avez fait tout à l'heure quand on a fait l'échauffement. Il y en a qui ont trouvé des très belles choses. Là, même monsieur la girafe, monsieur le zèbre, monsieur le coyote, vite, vite, on vous attend. Tu te souviens, Noah, quand on a fait l'exercice tout à l'heure, on a dit que c'est mieux de le faire debout. Et oui, mais parce que tu sais, pour le spectacle, on ne te verra pas. C'était là, faut pas que tu te caches quand même, c'est là tu devrais aller à côté de Noah, parce que là on te voit plus. Et fort, hein, parce que vous comprenez rien à ce qu'ils vous racontent, ces coqs.
Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle langue? Le pur français, c'est la langue où vous parlerez maintenant.
Oui, une langue faite uniquement de langues de mots de chez nous.
Une langue qui n'a pas besoin des autres langues.
Moi, je sais parler toutes les langues, moi, je sais parler les langues du monde entier. J'en sais rien.
Tu étais dans la transmission avec tes enfants, tu interviens autour de Rodez, sur Sévrac, le château.
Alors voilà, là j'ai eu beaucoup, tous nos Célois, ils sont formidables.
Et ça t'apporte quoi? Alors tout ce temps que je viens de te voir cet après-midi, c'est pas facile, c'est tout un investissement, l'énergie à apporter.
Écoute, il y a à peu près deux... Il y a deux schémas un peu différents. Il y a ce que tu as vu cet après-midi, où c'est des enfants qu'on choisit ça comme activité. Et c'est un cours qu'on va faire sur toute l'année. Alors là, tu m'as vu avec des petits, donc ils ne savaient pas forcément ce que c'était le théâtre. Mais quand même, c'est une activité choisie. Et il y a les écoles, où j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, pour 5 heures, pour 10 heures. Ils n'ont pas forcément tous envie, ils me regardent un peu... Et en fait, j'adore ça parce que je sème des petites graines. Alors des fois, il ne se passe rien, mais il se passe toujours quelque chose avec quelques enfants. Et il y a aussi le regard des instits qui tout d'un coup vont découvrir un enfant qui ne voyait pas du tout comme ça. Et des enfants qui étaient... peut-être pas très à l'aise, je sais pas trop quoi, qui tout d'un coup vont se révéler, qui eux-mêmes vont être tellement heureux. Et je me dis, enfin, moi je le prends vraiment quand je dis que je sème des petites graines, il y en a peut-être qui vont, enfin, il y en a pas mal là, c'était mes derniers cours autour de Nocelles, il y en a plein qui m'ont dit, moi je vais aller faire du théâtre avec Cécile, qui a Nocelles. Donc super, moi je suis enchantée. Et d'autres, et ben peut-être qu'ils feront jamais de théâtre, qu'ils seront pas du tout comédiens, enfin c'est pas le but, mais. Je trouve que ça leur apporte tellement pour leur vie, parce que apprendre à parler fort, à s'exprimer, à s'imposer, à se tenir droit, c'est pour toute la vie. Et à dire ce qu'on pense. Enfin, ils ont une certaine liberté quand même dans mes cours où ils vont s'exprimer à leur manière. Moi, je leur dis toujours, on ne se trompe pas au théâtre. Tout à l'heure, il y a un petit garçon, quand on faisait l'échauffement, c'était avant que tu arrives, il me dit, mais je ne sais pas, parce qu'on faisait des animaux. Il fallait être debout parce que pour qu'on les voit mieux, j'ai pas envie qu'ils soient tous à quatre pattes. Après, ils vont parler et tout, c'est trop compliqué. Et il me dit, mais moi, je sais pas faire le puma à quatre pattes, debout. Et je lui dis, mais si, il y a ta manière à toi. Enfin, et voilà, c'est de prendre confiance en eux. Enfin, voilà, c'est ce qu'il faut dans la vie. Et s'exprimer, et voilà, c'est... Et il y a rien, et ça, pareil, dans les écoles, mais je leur dis, vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez pas vous tromper, je vais pas te dire non, t'as faux. C'est vous essayer, puis après on va gommer, ou on va en faire plus, ou on va essayer autre chose, mais c'est jamais faux. Et il n'y a pas qu'une manière de faire non plus. Et ça j'adore ce contact avec eux. Et puis eux, hein, ils sont tellement... des fois, j'ai demandé des impros, on a un peu une idée en tête quand on lance un sujet. Mais alors... Et ils sont décontenançants et en même temps c'est merveilleux.
Dissonance
avec Éléonore Echen
sur Radio Sainte-Afrique.
Pour l'instant, j'ai été à fond dans la transmission, justement. J'ai eu un travail énorme, comme j'avais jamais eu. Donc j'ai eu 6 mois très occupés, ce qui est merveilleux quand même, justement, quand on sait que notre intermittence se termine, qu'on n'a pas de date, c'est bien d'avoir du travail quand même. Donc là, j'ai donné beaucoup, beaucoup de cours, j'ai sillonné l'Aveyron. Là, il y en a quelques-uns qui vont continuer, mais tout s'apaise. Et je pense faire ce que je m'étais dit que je ferais si j'avais pas tous ces cours qui m'étaient tombés dessus, c'est retourner à Toulouse, passer des auditions, comme j'avais fait il y a quelques années quand j'avais joué dans les monologues du vagin, parce que, voilà, il faut que je me remette le pied à l'étrier du jeu, et avec l'espoir de relancer Cri de guerre. Et on a décidé aussi quand même de relancer Géophila et Grodiga, voilà, parce que c'est quand même une super pièce qui avait énormément plu...
Aux enfants,
vraiment. Puis c'est un message, oui, qui est encore très actuel, malgré tout. Maintenant, ça fait un moment qu'on l'a créé. Il y a des choses qui évoluent petit à petit, mais c'est encore beaucoup de messages à faire passer. Souvent que les enfants ont peut-être mieux intégré que les adultes. Mais c'est vrai que ça a super bien marché dans les écoles, centres de loisirs, tout ça.
Qu'est-ce que tu dirais à ta fille qui te dit « Maman, je ne vais pas à Toulouse ou à Paris, je vais faire comédienne ici en Aveyron ».
Les filles, entre celle qui veut devenir comédienne, l'autre réalisatrice, je me dis « Oh ben, si vous venez travailler ici, on pourra faire des choses ensemble ». Donc je ne vais pas... Je leur dirais vraiment non. Enfin, jamais non. Bon, en même temps, elles savent la réalité. Hein.
Enfin, oui, elles vivent de l'intérieur.
Elles savent les difficultés, elles savent tout. Donc jamais je pourrais leur interdire, tu vois, comme quand elles ont dit l'une je vais être comédienne et l'autre réalisatrice. Je ne me vois pas leur dire non. Et après, faites tout ce que vous voulez. Donc que ce soit à Paris, New York ou Rodez. Mais bon courage. Bon courage.
La parole du poète.
Chronique poélitique d'Elsa Dauphin.
Une étude de l'INSERM démontre qu'aujourd'hui en France, plus de 10 000 décès par an sont imputables au chômage. Anxiété, stress, hypertension, dépression, addiction, rechute de cancer, maladie chronique, suicide affectent les demandeurs d'emploi. Mais si finalement, ça n'était pas le chômage qui ruinait tant de vies, mais le travail. Le travail, tel que le conçoit notre société productiviste et qui a pour corollaire inexpugnable le chômage. Le travail comme injonction sociale, le travail comme obligation économique, le travail comme seule justification de notre existence, le travail comme unique mode de vie, le travail comme horizon indépassable. Sans travail, la mort. Antoine Aimaz est poète. Quel rapport avec le travail me direz-vous que ce poète ? C'est qu'un poète, ça travaille aussi pour écrire ses poèmes. L'artiste, qu'il soit bon ou mauvais, est d'abord un acharné du travail, dit Antoine Aimaz. Personne ne se réveille un beau matin Rimbaud. Un poète travaille, parfois l'air de rien. Il peut même travailler sans rien faire. Par exemple, Antoine Aimaz revient d'une promenade. Il a les oreilles qui chauffent de froid, il est un peu fatigué, le dîner est prêt, et les mots sont là, disponibles. Il pourrait donc composer un poème. Mais ça ne vient pas. Il lui manque le petit truc pour écrire. Il faut donc attendre. C'est bêtement compliqué, dit-il. Attendre. Antoine Aimaz écrit des poèmes en attendant. Notre poète passe aussi beaucoup de temps à regarder, à perdre son temps, dit-il. Il regarde l'impact des lourdes gouttes dehors sur les flaques d'eau déjà formées. Là, il n'attend rien. Il est tout occupé par ce regard qui le remplit. Ce regard qui lui donne l'impression de faire partie des choses. Ce regard, dit Antoine Aimaz, c'est une expérience brute, quasi enfantine, d'exister au même titre qu'un arbre, que de l'herbe ou que cette pluie qui tombe. Ce regard, c'est être, être là avec. À partir de ce saisissement du sentiment brut d'existence, Antoine Aimaz écrit des poèmes. Pris dans la spirale infernale d'une économie néolibérale, dont les maîtres mots sont productivité, compétitivité et concurrence, nous avons perdu ce simple sentiment d'existence. Nous avons oublié que notre vie nous appartient, que sa valeur n'est adossée à aucune justification économique. Nous sommes donc libres d'en faire ce que nous voulons. On peut la passer à trimer si le cœur nous en dit, ou se contenter très humblement de regarder la pluie tomber et d'écrire des poèmes. Mais écrire des poèmes, me ferez-vous remarquer dans un réflexe prosaïque, ça ne nourrit pas son homme. Effectivement, les poètes ne roulent pas sur l'or, et en plus, ils s'en fichent. Par contre, les poèmes nous permettent de briser les murs qui nous enferment et d'envisager le monde autrement. Ainsi, comme l'écrit Antoine Aimaz, « La poésie est à l'évidence une forme de résistance, d'opposition au laminoir historique dans ses processus de mondialisation » son uniformisation, sa logique marchande. Peu importe leur esthétique, leur thème, tous les poèmes, aujourd'hui, disent non à un monde qui stérilise l'espace du dedans et qui réduit les individus à leur rôle socio-économique. Il faudrait donner plus souvent la parole aux poètes et apprendre à les écouter avec attention.
« Merci à Éléonore Echène pour son témoignage. Merci à Elsa pour sa chronique poélytique. Vous pourrez réécouter cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance. Vous y trouverez aussi des liens qui vous renverront sur des projets évoqués dans cette émission, ainsi que les références des musiques et chansons entendues. Cette émission sera rediffusée lundi 30 mai à 20h et mercredi 1er juin à 11h. Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.
To build a deal out so strong that it doesn't fall apart.